Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. L'un des meilleurs éditeurs d'applications indépendants va rejoindre Apple, c'est la Pixelmator Team basée en Lituanie. Les logiciels de création Pixelmator et Photomator devraient donc appartenir à Apple dans les semaines ou les mois à venir. Faut-il se réjouir de cette acquisition dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple a présenté de bons résultats trimestriels, mais prévient que ses futurs produits ne seront peut-être pas aussi rentables que l'iPhone, et une nouvelle vague de bêta est arrivée pour tous les appareils Apple. Nous sommes le samedi 9 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Les premiers Mac M4 sont arrivés, ils sont disponibles depuis le vendredi 8 novembre, et comme on enregistre cette émission le vendredi, eh bien, on vient à peine de les déballer. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane, oui, ça va et toi, pas trop de cartons à la rédac ?
Si, là je t'avoue qu'on en a pas mal. C'est la période où on essaye de trouver un peu de place pour caser tout ça. Puis en plus, comme il faut renvoyer la plupart des produits, faut qu'on se souvienne comment on a déballé, comment il faut remballer. L'iMac, là en plus, c'est un peu un origami quand tu l'ouvres, donc faut pas que je perde la consigne. Est-ce que tu as dépoussiéré ton Mac Mini ou Intel ou bien tu as commandé un Mac Mini M4 ? T'en parlais la semaine dernière.
Oui, je l'ai dépoussiéré, l'opération s'est bien passée. J'ai pas pu le nettoyer autant que je voulais parce que j'avais pas forcément le bon tournevis. Mais il fait beaucoup moins de bruit, il est devenu très silencieux. Donc je pense que le Mac Mini M4, c'est pas pour tout de suite. Quoique. J'ai entendu dire que c'était une console de jeu, donc j'en connais peut-être un qui va se retrouver avec ça au lieu d'un PC gamer, qui sait. Enfin, j'en sais rien.
Je sais pas mais... si tu vas vraiment apprécier. Hein.
À suivre, on verra.
Ouais, on va voir, ouais. On va parler du premier sujet, c'est la grosse surprise de cette fin d'année. Apple va acquérir la Pixelmator Team, l'éditeur lituanien l'a annoncé sur son blog le 1er novembre. Il a signé un accord de vente avec Apple qui doit être examiné par les autorités compétentes. La Pixelmator Team fait clairement partie des meilleurs indépendants de l'écosystème Apple. Fondée par deux frères, c'est Saolius et Eidas Dailide. Le studio a lancé sa première application, l'éditeur d'images Pixelmator, en 2007 sur Mac. Depuis, il a créé Pixelmator Pro, un logiciel de création graphique qui est plus avancé, et Photomator, qui est spécialisé dans la retouche de photos. Alors, ce sont vraiment toutes d'excellentes applications, qu'on croirait presque être faites par Apple d'ailleurs, tellement elles suivent ses règles de design et ses innovations. Ce sont des applications qu'on est nombreux à utiliser à la rédaction. D'après le bref communiqué de la Pixelmator Team, il ne va pas y avoir de changement pour les applications pour l'instant, mais en fait on n'a aucune idée de ce qu'il va advenir après. Sachant que les éditeurs déjà absorbés par Apple ont eu des destins très différents, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, cette acquisition de Pixelmator ?
C'est difficile de te donner une réponse tant qu'on ne connaît pas les plans d'Apple.
Ouais. Mais c'est quoi justement quels peuvent être les plans d'Apple ?
C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Apple s'est décidé en 2024 à racheter Pixelmator. Alors évidemment, il y a deux, trois pistes. Soit c'est pour embaucher une équipe qui est très talentueuse et les mettre sur de nouveaux projets. Soit c'est pour reprendre leur logiciel et les mettre à la sauce Apple, même si on a l'impression que c'est déjà des logiciels Apple, donc ça ne devrait pas être difficile. On va dire que ce qui est intéressant, c'est qu'Apple rachète un éditeur de logiciel, en plus un éditeur de logiciel qui a vraiment pignon sur rue, et ça n'arrive pas tous les jours. Et ces dernières années, Apple avait un peu laissé tomber justement le logiciel sur ses plateformes. Elle faisait ses systèmes d'exploitation, elle continue à mettre ses logiciels historiques, qui sont par exemple Pages ou Numbers ou GarageBand, mais elle laissait surtout les éditeurs tierces le soin d'exploiter le potentiel de ses plateformes. Avec des fortunes diverses d'ailleurs, parce qu'on peut dire que le verre est quand même très rempli, il est plein sur iOS, mais il se vide progressivement sur les autres plateformes. C'est quand même pas forcément la joie sur le Mac App Store. Et on parle pas de WatchOS ou VisionOS qui en fait aucune. Voilà. Ceci dit, il y a quelque chose comme qu'il faut noter. Il y a eu un point d'inflexion l'année dernière. Elle avait Apple lors du keynote pour les iPads, elle avait présenté Logic et Final Cut. L'idée était de montrer que iPadOS était vraiment la plateforme créative par excellence. Alors, je me demande si Apple ne cherche pas à compléter son portfolio avec logiciel de retouche super optimisé pour l'iPad et qui carburerait à l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est toi qui, toi, tu suis de beaucoup plus près l'actualité d'Adobe que moi. Mais bon, petit à petit, l'intelligence artificielle est quand même en train de révolutionner des logiciels comme Photoshop et compagnie.
Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de plus en plus de nouveautés à chaque fois d'intelligence artificielle dans Lightroom aussi. Tout ce qui est suppression automatique d'éléments. Alors, ça arrive un peu avec Apple Intelligence, mais c'est plus évolué encore dans Lightroom où tu as des masques intelligents. Ce que fait d'ailleurs Photomator, l'application de la Pixelmator Team.
Donc je me dis que tout ça, lors de l'intelligence artificielle, en voulant vraiment booster l'iPad, je suis désolé, je vois beaucoup plus à Apple avoir des plans pour l'iPad que pour le Mac. Mais elle doit se dire que ouais, y a une carte à jouer et voilà, et prendre. Enfin, peut-être qu'il y a une prise de conscience depuis un an ou deux de se dire qu'Apple doit faire des efforts auprès de ses utilisateurs créatifs.
Alors, en fin de semaine dernière, Apple a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024. Le bilan a été globalement positif puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 6% en un an, ce qui est la meilleure croissance trimestrielle d'Apple depuis 2 ans. Le chiffre d'affaires s'élève à 94,9 milliards de dollars. Pour sa part, le bénéfice net aurait pu atteindre un record, mais il a été plombé par le redressement fiscal de 13 milliards d'euros en Irlande. Le bénéfice s'élève donc à 14,7 milliards de dollars seulement, entre guillemets, en baisse de 36% sur un an. Quels sont les autres chiffres à retenir de ces résultats financiers, Christophe ?
Pauvre gouvernement irlandais, en soir comme ça, un chèque de 13 milliards d'euros,
c'est
ça
dur.
Ça va être dur.
Ouais.
Alors, si tu permets, on va dézoomer un petit peu les résultats. Donc, on a beaucoup parlé des résultats trimestriels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exercice annuel d'Apple s'achève fin septembre. Donc, histoire d'avoir une image, on va dire, un peu plus large, on va s'intéresser aux résultats annuels d'Apple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas folichon. Alors, je prends évidemment, on va commencer par le plus gros, c'est-à-dire la division iPhone, qui a fait alors 201 milliards de dollars, 201 milliards de dollars sur l'année. Je le répète parce que j'ai du mal à le croire quand je dis ça. c'est impressionnant. C'est impressionnant dit comme cela, mais en même temps, enfin, c'est une croissance. Enfin, on ne devrait pas utiliser ce mot d'ailleurs. C'est une progression de 0,3%. Donc, autant dire que l'iPhone fait du surplace. Le Mac, bah, c'est à peine mieux, c'est plus 2,14%. Ça, on va dire que c'est le côté positif des choses. Le reste, c'est pas brillant. L'iPad fait moins 5%. C'est la troisième année de baisse consécutive. La division wearable n'est pas au mieux non plus. Elle est à moins 7%. Donc, rappelons que cette division comprend notamment l'Apple Watch, les HomePod et les AirPods. Alors, comme d'habitude, il y a la division service qui sauve le tout avec une croissance de plus 13%, ce qui fait que sur l'année, Apple enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 2%. Mais on a quand même l'impression qu'Apple est un peu passé pour le moment de l'autre côté de la colline, parce que la meilleure année pour l'iPhone, c'est 2022. Pour le Mac et les wearables aussi, je crois que c'est aussi le record en termes de 2022 représente un record en termes de chiffre d'affaires pour Apple. Alors, l'iPad, c'est toujours le petit vilain canard. Hein. L'âge doré de l'iPad, c'est 2013. Voilà. Alors, certes, bon, 2022, donc ça correspond à 2021, en fait. Donc, le contexte était un petit peu exceptionnel avec le Covid et le post-Covid. Mais on a quand même l'impression, à la fin, que Apple, c'est vraiment à la peine pour trouver des relais de croissance. Et alors, certes, la division service, pour l'instant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et qui permet de tenir le bateau à flot. Enfin, quand je dis ça, on a l'impression que je sous-entends qu'Apple va couler du jour au lendemain, mais c'est pas du tout ça.
Oui, voilà, faut relativiser à chaque fois.
Voilà, c'est toujours pénible de commenter les résultats d'Apple à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la division service, elle est beaucoup moins solide que l'on veut bien le croire. Imaginons que le contrat de 20 milliards de dollars avec Google tombe à l'eau pour des raisons réglementaires. Sa division afficherait tout de suite des résultats moins réjouissants. Et il y a un autre point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les multiples enquêtes dans le monde entier visant Apple, ça concerne quasiment essentiellement toujours cette division des services. Donc, de ce point de vue-là, j'ai quand même peur qu'Apple ait fini de manger son pain blanc et que les années qui suivent soient un petit peu plus compliquées.
Mais il y a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre quand même avec les intelligences artificielles génératives. Je pense à ChatGPT qui est intégré à iOS. Alors, a priori, Apple ne fait pas d'argent là-dessus pour l'instant, mais Apple compte ouvrir la porte à d'autres IA comme Gemini ou peut-être même d'autres. C'est peut-être quelque chose qu'elle pourrait monétiser ça auprès de ses partenaires.
Ah oui, non, mais attention, Apple ne manque pas d'opportunités pour les années à venir.
Ouais.
Encore faut-il saisir les bonnes. Et voilà, il y a un grand pari qui est fait. Enfin, Apple a fait un grand pari, alors certes à long terme sur le Vision Pro, qui pour l'instant n'est pas payant. Là, le nouveau pari d'Apple, effectivement, c'est Apple Intelligence. Pour l'instant, enfin, c'est certain que tôt ou tard, Apple proposera des fonctionnalités payantes autour de l'intelligence artificielle. Après, c'est toujours le problème. Est-ce que les utilisateurs suivront? Telle est la question.
En parlant de ça, oui, donc en marge des résultats trimestriels, Apple a publié donc son rapport annuel dédié aux investisseurs. Et dans celui-ci, elle mentionne un élément qui a retenu notre attention. Donc l'entreprise déclare que ses futurs produits, qui sont susceptibles de remplacer ceux existants, pourraient produire des revenus et des marges bénéficiaires plus faibles. Et elle explique ensuite que ça pourrait avoir un impact négatif sur sa situation financière. Donc on comprend qu'après l'iPhone, Apple a toujours pas trouvé sa nouvelle poule aux œufs d'or. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour elle?
Alors, il faut faire toujours attention avec ce genre de document parce que voilà, c'est un exercice dans lequel on peut être vraiment tous les dangers potentiels.
Ouais.
Si ça se trouve, c'est quelqu'un dans la section financière qui a dit, tiens, on n'a jamais parlé de ça, il faudrait pourtant. Hein. Parce que si on avait fait, enfin, je prends un exemple, si on devait faire un papier similaire pour Mac Génération, on devrait dire que nos locaux sont dans une zone potentiellement inondable et que cela représente un risque pour notre activité. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment tout prendre en compte. Alors, par rapport à ce que je disais juste avant, il y a sans doute trois points qui sont effectivement importants pour Apple. Il est clair que le marché des smartphones, par exemple, est arrivé à maturité. La concurrence est toujours aussi forte, si ce n'est plus. D'ailleurs, il y a une étude qu'on a relayée au sujet de l'iPhone 16 Pro qui laissait entendre que l'iPhone 16 Pro, oui, voilà, l'iPhone 16 Pro était plus cher à produire en composant que le 15 Pro. Bon, ben ça veut dire que les marges sont sous pression, c'est certain. Et oui, d'un point de vue hardware, il est de plus en plus difficile de faire la différence. Alors, il y a par exemple des acteurs qui pèsent pas lourd en termes de vente, mais par exemple, voilà, on voit que Google, avec le Pixel 9 Pro, monte petit à petit en gamme. On en parlait juste auparavant, il y a la division service. Ce que je disais, c'est que les activités les plus rentables sont toutes scrutées par les régulateurs du monde entier. Là aussi, il y a un sujet pour les marges d'Apple. Si Apple Pay se met à voir du jour au lendemain de la concurrence, si le contrat avec Google, c'est plus 20 milliards, mais c'est 5 ou 10 milliards parce que Apple est contrainte à revoir ses plans, effectivement, ça peut changer du tout au tout.
Il y a aussi tout ce qui entoure l'App Store, les commissions, tout ça, où Apple est sous pression. Ouais.
Voilà, exactement. Les commissions d'Apple, il n'y a pas si longtemps, c'était 33% pour tout le monde. Puis après, ça a été 15
30%.
et puis ça baisse. 30%, pardon. Ouais. Et ça cesse de
Ouais.
s'effriter. Et puis, bah, effectivement, enfin, on en parlait il y a 2 minutes. L'un des sujets, alors ça concerne toute l'industrie, c'est l'intelligence artificielle. D'énormes investissements sont faits actuellement pour le plus grand bonheur de Nvidia. Mais à la fin, on ne sait pas qui c'est qui va payer. Et voilà où on ne sait pas combien les consommateurs et les professionnels sont prêts demain à payer pour des services d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que là, par exemple, la plus-value d'Apple Intelligence sera suffisante pour que l'utilisateur dépense 10 ou 20 dollars de plus par mois? Bah, c'est la question un peu que tout le monde se pose. Alors certes, Apple a peut-être un petit avantage parce qu'elle travaille beaucoup, elle essaie de faire beaucoup travailler les terminaux des utilisateurs en local, mais c'est sans doute insuffisant. Donc oui, il y a beaucoup d'équations à résoudre pour le nouveau directeur financier d'Apple qui prendra son poste en début d'année prochaine. Quitte à se répéter, vraiment, le vrai souci d'Apple, de mon point de vue, c'est qu'elle donne pas l'impression d'avoir un plan très clair à court ou à moyen terme. Voilà, on a vu sa vision à long terme sur l'informatique spatiale interroge. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire vision stratégie, mais ça, c'est un autre débat. Mais je continue à penser qu'elle a laissé quand même passer beaucoup d'opportunités. Alors, c'est qu'un point, mais et je me répète, mais je suis certain qu'un iPhone pliable à 2 000 $ aurait un certain succès, que ça ferait de la croissance, que du fait que c'est des terminaux qui progressent rapidement d'un point de vue hardware, il y aurait potentiellement un taux de renouvellement important. Et je pense que ça aurait plus d'écho en 2024, en tout cas, auprès d'utilisateurs qu'un casque. Et puis, il y a des opportunités qu'elle n'a pas totalement saisies. Faut vraiment que j'écrive un papier sur le sujet, mais je pense que Apple a raté un truc, notamment avec les Mac Apple Silicone. Elle avait une avance technologique significative, et finalement, ça s'est pas cette avance, on la retrouve pas vraiment dans les résultats trimestriels d'Apple. C'est-à-dire que lorsque les Mac Apple Silicone sont sortis, il y a eu tout d'un coup un phénomène de renouvellement très important auprès d'utilisateurs Apple.
Et ça arrive en même temps que
Mais
le
là,
Covid, en plus.
en plus, ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la base utilisateur Mac ne s'est pas agrandie de manière spectaculaire.
Eh bien, on va terminer le tour de l'actu avec un petit récapitulatif des bêtas sorties cette semaine, parce qu'elles sont nombreuses et elles comprennent des nouveautés intéressantes. La deuxième bêta d'iOS 18.2 ajoute notamment la prise en charge de RCS pour Free Mobile et Bouygues. RCS, c'est le standard qui améliore les messages instantanés entre iOS et Android. Une fois n'est pas coutume, c'est Orange qui est en retard et l'opérateur nous a déclaré que RCS ne serait pas pris en charge chez lui avant le premier semestre 2025. La deuxième bêta de macOS 15.2 améliore pour sa part grandement la recopie d'écran en AirPlay. On peut recopier seulement certaines fenêtres maintenant, c'est très pratique, ça évite de montrer son bureau macOS qui n'est pas forcément bien rangé lors des réunions. D'ailleurs, quand j'ai rédigé l'actu, ça m'a même étonné que cette fonctionnalité ne soit pas disponible depuis longtemps. Et puis, on va parler un petit peu du Vision Pro. La première bêta de VisionOS 2.2 apporte quant à elle de nouvelles options quand on utilise le Vision Pro comme écran externe pour un Mac. On peut maintenant avoir un écran virtuel large, voire ultra large. Alors, j'ai fait quelques essais. C'est très impressionnant. J'ai travaillé pendant une matinée comme ça, en recopie d'écran du Mac sur le Vision Pro, donc. Mais ça n'empêche pas que je préfère toujours utiliser un vrai écran externe. C'est moins fatigant et puis il n'y a pas de problème d'autonomie. Au bout de 2 heures avec le Vision Pro, j'avais la batterie qui me disait, bon bah là, c'est le temps de brancher la batterie ou bien de poser le Vision Pro, quoi. Toutes ces versions .2 devraient être proposées en version finale début décembre. Alors je sais pas si tu les as installées, Christophe, mais de manière générale, est-ce que tu es content de Sequoia et iOS 18?
Ouais, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est quand même un bon cru, notamment en matière de stabilité, on n'a quand même pas eu de mauvaises surprises. Alors tu me contrediras peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'on a vraiment trouvé, comme ça a pu arriver certaines années, un ou plusieurs bugs vraiment méchants qui mettent par exemple en danger la stabilité des données ou je ne sais quoi. Voilà,
Il y a
sur
eu
Mac,
ouais,
bon.
quelques soucis sur macOS au début avec les extensions réseau, les parties réseau, mais ça a été résolu par la point 1, il me semble.
Oui, c'est vrai qu'ils ont retravaillé cette partie-là. Il y a eu quelques petits changements sous le capot ces derniers mois. Bon, là, sur Mac, il y a juste l'application podcast qui est toujours un petit peu capricieuse, mais à part ça. Après, il faut aussi se dire que quand on installe iOS 18 et Sequoia pour la première fois, on n'est quand même pas bouleversé par les nouveautés. Hein, on a l'impression d'avoir. Oui, d'installer. Enfin, ce n'est pas des mises à jour qui bouleversent tout. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, le jour J, c'est pas forcément le grand chamboulement, mais on a l'impression d'avoir des changements assez continus et pas négligeables. On l'a déjà vu avec les points 1, et il y a encore pas mal de nouveautés qui arrivent avec les points 2. Même si on met de côté Apple Intelligence, je pense que ça continuera également pendant l'hiver, lorsque les points 3 sortiront. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté maintenant chez Apple. Les nouveautés, c'est toute l'année et c'est plus qu'en septembre. Donc, s'il y a un côté un peu plus étalé, alors c'est bien et pas bien à la fois. Mais enfin, je trouve, alors je ne sais pas si c'est lié indirectement à Apple Intelligence qui a sans doute mobilisé beaucoup les ingénieurs d'Apple. Et ce qui est bien, c'est que toutes les nouveautés qui sont arrivées jusqu'à présent, on ne les a pas trop payées avec une stabilité ou une gestion de mémoire capricieuse, on va dire.
En plus de ça, il y a le calendrier du DMA que Apple va suivre. Il y a à chaque fois des échéances. Avec la pointe 2, il y aura notamment la possibilité de choisir plus facilement les applications par défaut. Donc il y a ça qui s'ajoute aussi au calendrier des releases, des nouvelles versions.
Ouais, la liste des nouveautés, oui, est impressionnante, impressionnante et assez riche, même si parfois, effectivement, c'est un petit peu contraint.
Ouais. Eh ben, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. On rappelle que notre campagne de financement participatif pour le magazine des 25 ans de Mac Génération est toujours en cours. Donc, si vous n'y avez pas encore participé, n'hésitez pas à le faire. Bon week-end, Christophe.
Merci d'abord à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent dans cette aventure. Et effectivement, bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sortie de Veille. Salut à tous !